Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
C'est un régime à base de gras que tu nous proposes là?
Ouais. C'est, non, c'est pas un régime, c'est une alimentation totalement normale.
C'est la diète méditerranéenne?
C'est la diète française.
Ouais.
Faut arrêter avec le gras c'est bon. Quand c'est
le gras c'est la vie.
Ouais. Le gras c'est la vie.
Je sais pas si c'est la vie non plus, mais
le gras c'est le goût.
Le gras c'est bon, le gras c'est le goût.
Voilà, enfin, le gras est quand même vachement réhabilité en ce moment. L'ennemi c'est plus le sucre que le gras maintenant.
Je pense qu'on est en train de se rendre compte que justement.
Bah, je sais pas, moi je préfère le gras.
Bah oui.
Que le sucre a fait, un lobby anti-gras total.
Ouais.
Parce que je pense qu'ils avaient plus d'argent. Voilà, la vérité est là.
C'est
encore le pognon qui a drainé tout ça. Et que le gras, en fait, quand bien utilisé, le gras bien équilibré, c'est bon pour la santé.
Marine, t'as un truc qui croustille dans ta bouche.
C'est ce que j'allais dire. T'entends comme ça croustille.
C'est quoi?
C'est Yves qui a ramené ça. C'est des gratons de porc?
Ouais, gratons de porc.
Waouh. C'est à tomber par terre.
Faut imaginer quoi là? C'est des gratons sous forme de terrine un peu.
Ouais, c'est pas.
Ouais, ils sont pressés. Après, on peut les mettre dans une verrine, peu importe. Le graton, en fin de compte, c'est quand on cuit le cochon, quand on fait les confits de cochon, c'est toutes les petites parties qui se détachent, qu'on récupère et après qu'on assaisonne et qu'on moule.
C'est dans le cochon, rien ne se perd.
Et t'accompagnes ça avec des aubergines un peu.
Mmh. Ouais, mais c'est justement le twist qui est intéressant aussi, c'est d'amener le côté végétal quoi. Mmh. C'est vrai que le cochon, moi, c'est mon animal préféré. C'est sans doute la matière première que je connais la mieux. Et aujourd'hui, de l'amener un peu sur d'autres sentiers battus plutôt que l'ail et le persil, l'amener sur le végétal, là, en l'occurrence l'aubergine. Je trouve que c'est bien, ça mène la fraîcheur.
Aubergine frite.
Ouais. Aubergine frite.
Ah, les frites.
Frites et marinées. Ouais.
On est vraiment sur une théma gras, quoi. T'aimes bien, Hector?
C'est vraiment délicieux, ouais.
Bon, il est 13h. J'allais dire, on va passer à table, mais en fait, on a déjà commencé un peu, non?
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Je mange ma fille.
Avec du bon.
C'est chaud. C'est chaud.
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 Ah, c'est chaud.
Présenté par Minasoun Diram et Elvira Masson.
Chaud 7. Ouais,
ah
j'étais
non.
Obligée. Et ouais, c'est la 7e. On est très heureuse de recevoir Marine Bideau et Yves Canbord. Salut.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bon, pour vous présenter un peu, même si on vous connaît par-delà
les frontières.
Marine, tu co-diriges le bureau du fooding à Paris avec Alexandre Camas. En clair, tu es responsable de tout événement fooding qui se déroule en France et de tout contenu produit par le fooding. C'est bien ça?
Ouais, pas éditorial.
Pas éditorial,
c'est Alex.
Ouais, juste la partie événementielle.
Événementiel ou autre chose qui n'est pas éditorial. Alex en fait d'autres choses.
Les événements les plus cools dans la bouffe du moment, c'est toi.
Merci. Du moment, depuis
longtemps même.
Depuis 16 ans.
La création,
16 ans. Ouais. 17 ans.
Ah, Yves, toi tu es restaurateur à la tête du comptoir du relais, des avant-comptoirs terre et mer, et celui du marché, ainsi que de l'hôtel du relais. Toutes ces adresses étant touche à touche dans un moussoir de poche du côté de l'Odéon.
Oui, tout à fait, le quartier Odéon à Paris.
J'ai rien oublié.
Non, c'est déjà beaucoup, hein. C'est suffisant.
Oui, j'imagine.
Alors, on avait très envie de vous recevoir ensemble pour plein de raisons. Une, vous vous connaissez depuis longtemps.
Ouais.
Vous êtes très proche depuis plus d'une dizaine d'années, c'est ça?
Bah depuis le début.
Ouais, c'est ça. Ça fait même du coup presque 15 ans.
Depuis 2003.
Depuis 2003. Ce qui n'est pas si courant que ça dans un milieu plutôt dur, dans un milieu pas évident. Et vous avez chacun, soit à titre personnel, soit à titre collectif, voire les deux, porté quelque chose qui ressemble à une rupture, à un bouleversement dans le paysage gastronomique français. C'est de ça dont on va parler pendant une heure. Et puis on va aussi manger des trucs bons, on a commencé déjà, et boire un coup.
Ouais. Bah, on va commencer par ça d'ailleurs, par
boire un coup.
Ouais. Avec plaisir.
Et Yves, on sait quand même que tu t'y connais quand même pas trop mal en vin.
Bon, m'y connaître, je sais pas.
Parce que t'aimes bien boire un coup.
Ouais, t'as la main.
Je suis un buveur.
T'aimes bien lever le coude.
J'aime l'ivresse.
Et tu connais Hector qui est notre chroniqueur vin.
Non, je le connaissais, mais on se connaissait pas de visu, on s'est rencontrés, on s'est croisés.
Voilà.
Santé.
Santé Yves.
Donc on va tester tes connaissances vin.
Ouais. Bon, c'est du vin rouge, déjà, c'est pas mal, non?
Ouais, là,
jusqu'ici, tout va bien.
Alors moi, quand je déguste, Avant de dire ce que c'est, je dis ce que c'est pas.
D'accord.
Ça, bon, c'est pas du Pinot.
Hector, c'est toi qui le corrige. Hein.
C'est pas du Pinot, ouais. C'est pas de l'Alsace. Donc on enlève la Bourgogne, on enlève l'Alsace. C'est chaud, c'est puissant. Donc c'est une année très solaire. On va descendre dans le... Moi, je vais dans le sud, il y a un peu un côté tannique. Il y a peut-être un côté un peu astreignant de fin de palais. Bon, ouais, je vais me lancer. Je pense que je vais aller dans le sud. Je vais aller... Allez, sud, Languedoc-Roussillon.
Ah, presque, Yves.
Ah.
Presque.
C'est quoi, presque, Languedoc?
C'est du Bourgueil.
C'est du Bourgueil. Ah, ben ouais, c'est bon, c'est bon. Mais je dis, toi, j'ai très, très bon dégustation. Hein.
Bon, alors, pour vous parler de ce vin aujourd'hui, je n'aurai qu'un slogan, merci la vie. Alors, ma chronique prend un tour un peu intime. Vous direz mégalomane. Certes, merci la vie. Alors, je vous raconte ma soirée d'hier. 19h à l'apéro.
Raconte.
Je suis à la cave de Belleville, cette jolie chapelle à pinard plantée au milieu de la rue du même nom. Face à moi, une femme absolument superbe. Je trouve que c'est ma copine.
Ah oui, d'accord.
Merci, la vie. Alors, la journée avait pourtant mal débuté. J'ai raté mon permis de conduire pour la deuxième fois. À ce moment-là, j'avais plutôt envie de dire « merdier la vie ». Mais revenons au bar. On choisit du rouge. Le serveur nous dit « j'ai un bon petit bourgueil à vous faire goûter ». Merci, la vie. Vive, végétal, droit, frais, un petit peu de tanin en fin de bouche, bien vu, Yves, quand même. Un vin qui contraste avec le temps dehors, hein, un vrai goût de printemps. Merci, la vie. Alors merci la vie car il se trouve que c'est le nom de ce pif, fait par Xavier Courant, qui porte bien son nom parce que son vin est conducteur. Un vin de Loire du domaine de l'oublié, qui ne devrait pas le rester longtemps, du Cabernet Franc du Collier. Merci la vie. Bon, désulfité en biodynamie, il est croquant, hein, comme Leonardo DiCaprio, période Roméo et Juliette.
Ah ouais, moi je vois.
À l'aquarium, tout ça.
Je vois tout à fait.
Une robe couleur rouge rubis aux reflets violacés qui donne envie de chanter le cul dans l'herbe tendre.
D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre.
Merci la vie.
Alors l'étiquette, elle est comment?
C'est une étiquette qui veut évoquer un vin de plaisir, un vin de chanson, la picrate qu'on buvait dans les guinguettes, sapée comme jamais, mais en 1880. Dessus, une femme en corset invite à danser la gigue dans l'arrière-pays.
Ah ouais?
Merci la vie.
Et tu le manges avec quoi?
Avec un vendredi soir.
Oui, mais quoi encore?
Avec un bon poulet rôti que tu boulottes avec les doigts, par exemple. Merci la vie.
Et ça s'achète où?
Comme je disais précédemment, la cave de Belleville, hein, cet endroit formidable qui recèle des quilles, qui commence à 9 euros quand même. Celle-là ne coûte que 13 balles.
Ah, voilà, pour une fois, t'as réussi à tenir ton...
Je m'en suis tenu aux économies, aux économies de chaud.
Oui, parce qu'on... La mission d'Hector, ouais, c'est de nous trouver une bouteille à moins de... 12-13 euros maximum, ouais. Ouais.
À moins de 13 euros.
Voilà.
C'est pas mal, non?
C'est pas mal, ouais.
C'est pas mal.
On dit merci qui?
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Et merci Hector. Merci Hector. Bon, Marine, raconte-nous un peu tes débuts au fooding. J'ai enquêté, il me semble que tu es arrivée comme stagiaire il y a un peu plus de 15 ans déjà.
16 ans, ouais.
16 ans.
Plus de 16 ans. Ouais, je suis arrivée en tant que stagiaire. J'ai fait le pied de grue à Nova parce qu'à l'époque c'était à Nova. On était Jean-François Bizot prêtait une partie de la salle de la photocopieuse à Alexandre.
C'était un placard à balais quand même.
C'était un placard à balais.
J'étais pas encore.
Et j'avais cette intuition que c'était ma place. Je sais pas comment l'expliquer. Je venais d'une famille où la contre-culture était importante. Il y avait Actuel qui traînait sur la table basse et j'écoutais Nova et j'entendais parler d'un truc, boire et manger. With feeling, fooding, et j'étais dingue de bouffe, j'étais complètement fan d'Yves Candebord parce que en plus d'être un petit peu contre-culture, je regardais quand même Cuisine TV et j'achetais à la table, donc une petite dualité. Et je m'aperçois qu'il y a ce mec, Alexandre Camas, qui a un discours, j'ai l'intuition que c'est ma place, je sais pas comment le dire autrement. Voilà.
Tu travaillais dans quoi avant? T'étais déjà dans
le... Rien à voir, histoire de l'art. J'étais en stage au musée d'Orsay, rien à voir.
D'accord.
Et je me dis, donc je décroche un rendez-vous, pas du tout avec Alex, il en avait rien à foutre, avec une jeune femme, Danielle Jerkens, Danielle Avar à l'époque, et qui me dit, ok, viens, parce que j'envoyais quand même un mail par semaine, un coup de téléphone tous les 15 jours, enfin j'y allais, je voulais absolument y être, et je voulais montrer que je connaissais. Et donc je décroche un rendez-vous et là j'arrive avec un panier rempli de plein de trucs,
faillotage,
voilà. Mais je voulais montrer qu'à 22 piges, j'avais 22 ans, je connaissais un petit peu, donc j'avais ramené du pain de chez Pougeot en truc de chez Bordier. Bon, vraiment je m'étais embêtée. Et ils m'ont dit, ok, viens, on te rappelle. Et une semaine après, Daniel, qui aujourd'hui dirige
la table, lifestyle,
me dit, ok, tu viens, viens nous donner un coup de main. Donc c'était un stage de 3 mois. Moi, j'étais en fin d'études. Et elle m'a dit, ok, reste. Je rencontre Alexandre qui, au bout de 2 mois, me dit, bon, bah, en fait, je te propose de rester et au bout de 6 mois de devenir associé.
Ah ouais?
Et j'ai refusé pendant 1 an et demi.
Pourquoi?
Parce qu'ils étaient fous avec Emmanuel Rubin, lui et tout, ils me faisaient trop peur.
Tu voulais pas, et un soir, ils m'emmènent dîner.
Ouais, je voulais me sentir libre. Ils étaient complètement, c'était une secte. On bossait, je sais pas, 22 heures. Et j'adorais. C'était complètement
incroyable.
Tu sentais
que t'es à l'origine d'un mouvement.
Il se passait un truc fort, mais avec Julia Samut à l'époque, on était totalement corvéables et on était passionnés. Mais
Julia
Samut,
qui était donc membre du bureau, qui était là avant que tu arrives et qui aujourd'hui est à la tête d'un lieu génial à Marseille qui s'appelle la cave épicerie d'Idéal. Voilà.
Et le soir où ils en avaient marre, je refuse les parts, Emmanuel et Alex, ils m'emmènent dîner au comptoir du relais. Maintenant, il faut que tu prennes une décision, c'est pas possible, on t'offre des parts, donc tu peux pas nous dire non.
Et Yves, t'as gagné le graton, t'as pas pu réaliser.
Et voilà, et au bout d'un an et demi, j'étais associée.
Tout ça, c'est grâce au gras, finalement.
Exactement. Tout est passé sous le signe du gras.
Mais surtout, le premier événement fooding que j'ai fait, et ça a été un grand moment dans ma vie, parce que donc j'étais dingue de Yves Candebord, vraiment, c'était absurde. C'est absurde de dire ça, mais j'avais 22 ans, je regardais Cuisine TV, je lisais à la table, et Yves a toujours eu un rapport assez proche avec la presse féminine, on va dire. Et il était partout et je le trouvais hyper libre. Je trouvais ça dingue d'avoir lâché une grande institution parisienne pour ouvrir son petit rad dans lequel j'allais souvent avec ma mère parce qu'elle bossait juste à côté, la Régalade.
On va revenir sur la jeunesse de la Régalade et de ton parcours, Yves. Juste, Marine, quand t'étais enfant, comment t'expliques quand même le moment où il se passe un truc avec la bouffe quand on est enfant? C'est ta maman et ta grand-mère cuisinaient.
Oui.
Famille du Gers, famille du Sud-Ouest en général.
Mais en fait c'était plus le restaurant
que la cuisine.
Le restaurant chez nous c'était on n'y allait pas beaucoup mais il y avait un truc, c'était vraiment
un spectacle, quoi, un peu.
C'était super, on se faisait beau, on préparait, on se disait là on va aller dans tel restaurant.
Oh, c'était important, quoi.
C'était un grand moment, quoi.
Tu racontais dans une interview qu'à je sais plus quel âge t'avais demandé comme cadeau pour ton anniversaire ou pour Noël, je sais plus, un dîner dans le plus grand restaurant du monde.
Ouais, non, c'est ma mère qui m'a eu très jeune, qui disait, elle est arrivée à Paris de Toulouse et elle était enceinte de moi, elle avait dit le jour de tes 10 ans j'aurai les moyens de t'emmener à la Tour d'Argent, et le jour de mes 10 ans on est allé à la Tour d'Argent.
Tu te souviens de ce que t'as mangé?
Ouais, très bien, des œufs brouillés à la truffe.
T'as pas mangé le canard au son?
Non, pas du tout.
Ah, tu sens, c'est un peu hard.
Et ensuite, tous les ans, ça a été un peu la tradition, tous les ans, je choisissais mon restaurant. Bon, je me suis un peu perdue vers 14-15 ans, on est allé au Hard Rock Café. Mais autrement, j'avais plutôt bon goût.
Erreur de parcours. Et t'as dû demander la Régalade 15 fois, non?
Ben non, la Régalade, on y allait souvent.
Ouais, c'est ça.
On y allait souvent.
Et toi, Yves, c'était comment ton enfance dans le Béarn?
Totalement normale.
Tu t'intéressais déjà à la table?
Non, c'est la table qui s'intéresse à nous. Tu veux dire, on n'avait pas de... La table, c'était une logique chez nous.
Tes parents, ils faisaient quoi?
Papa avait une ferme, maman avait une charcuterie. Donc les produits, les bons produits, tu vois, c'était totalement normal. Donc moi, je baignais là-dedans. Donc on ne se rendait même pas compte de ce qu'on mangeait, de comment ça se passait. Tous les dimanches midi, on faisait des repas gargantuesques. Papa était debout sur la table, ça chantait toutes les chansons possibles derrière. Il y avait une festivité, une convivialité toute la table qui était complètement naturelle. Je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivé à Paris. J'arrive à Paris en 1980, à l'hôtel Ritz. Et Monsieur Leguet, le chef du Ritz, dit, tiens, on va chercher des bons produits. Et je pose la question, mais j'ai dit, de quoi vous parlez?
Mais c'est pour toi, c'était pas tout. Les mauvais produits.
Oui,
parce qu'il commençait à parler, me dire, mais les fraises qui venaient de la terre, les carottes qui venaient de la terre, le veau de lait, les poulardes qui étaient finies à la mie de pain. Mais j'ai dit, ouais, mais ça
dit que ça. Toi, t'as toujours connu ça.
Je me rendais pas compte, naturellement. C'était en moi, c'était inné, quoi. C'est mon éducation. Après, moi, j'ai été un peu, j'étais un peu casse-pied parce que gamin, dès l'âge de 10-12 ans, je voulais me barrer.
Ouais.
Donc j'en avais marre de l'autorité familiale, j'avais envie de vivre ma vie. Bon, parce qu'on était quand même dans un milieu rural, de paysannerie qui est quand même très fermé, qui est quand même très très très, très dur, quoi. Autant philosophiquement que physiquement. Donc j'avais pensé à quelque chose, c'est partir.
Et tu voulais faire quoi?
Je voulais dire... Non, je voulais pas faire
cuisine. Tu voulais pas être chef?
Non, je me foutais complètement. Non, je me mariais à 14 ans, j'ai dit à papa, en plus j'étais en avance à l'école, ça a été un peu ma chance. J'avais 2 ans d'avance. J'étais en seconde C, j'avais à peine 14 ans. Mmh. Et donc, de par ça, tu vois, ils écoutaient un peu. Je leur ai fait, non, j'arrête tout, je me barre. J'arrête. Et donc, papa m'a dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais va-t'en, mais tu restes pas dans la rue. Et donc, il m'a dit, choisis un métier. Moi, j'ai choisi, trouve pour moi, ça aurait pu être mécanicien, plombier, tout. Et donc, la facilité pour papa, c'était trouver, bien sûr, autour des métiers de la bouche. Mmh. Donc, il m'a mis dans un restaurant à Pau, qui s'appelait Pyrénées. Une maison totalement inintéressante où il n'y a pas de culture de qualité, il n'y avait rien d'intéressant. Mais je me suis,
retrouvé
là-dedans. Déjà, bon, parce que c'est la première fois de ma vie que je n'étais pas sous l'autorité parentale. Donc là, pour moi, c'était hyper important. Et puis, l'esprit d'équipe. Voilà, le groupe mélangé avec des anciens, des vieux, les histoires, se les raconter. Tout. Vivre une vie de liberté. Donc je suis ce chemin, bon an, mal an, bon, sur des circonstances très particulières de concours de cuisine que j'ai passé, alors que j'étais nul, je me suis retrouvé sur des concours, on faisait des omelettes. Donc je me suis retrouvé en finale, très vite.
Parce que tu étais nul, mais tu t'es retrouvé en finale. Tu fais une ellipse, là.
Non, mais parce qu'on faisait des omelettes dans ce restaurant-là. Ouais. On en faisait tous les jours 200 omelettes. Ouais, et une omelette, c'est un geste technique quand même très particulier. Ouais. C'est vraiment, techniquement, c'est très bien que tu prends aujourd'hui tous les grands cuisiniers, je suis pas sûr qu'ils savent faire des omelettes. Ouais. Convenablement. Et donc, on les faisait. Donc, j'ai été sélectionné à un concours pour faire ça. Je suis tombé au tirage au sort sur une omelette. J'ai fini premier. En quart de finale, je suis retombé sur une omelette. En demi-finale, sur une omelette. Et en finale à Paris, j'ai eu des plats à faire, carré votre choisi, bon, des trucs à la Escoffier que j'étais incapable de faire. Donc, j'étais pas très capable de cuisiner. Je me rappellerai toujours, je pleurais. Parce que je pensais quelque part, quand t'es gamin, que tu gagnes des concours, toi, que tu deviens, toi, l'ego est un peu flatté. Bon. Donc j'étais complètement déprimé. Le responsable de cuisine, c'était Guy Le Guel, chef du Ritz, qui m'a dit que si t'arrives petit, pourquoi tu pleures. Moi, je sais même pas qui c'est Escoffier, je sais même pas ce que vous me demandez. Et il m'a dit t'inquiète pas, c'est pas grave dans la vie. Tiens, prends la carte, tu reviens me voir, je t'embaucherai. C'est comme ça que
incroyable.
Je rentre au Ritz. Tu vois.
Et tu sentais Ritz, à ce moment-là qu'il se passait un truc pour toi quand même.
Ouais, je sais même pas, je crois pas. C'est le Ritz. Le Ritz, c'est une rencontre. C'est Christian Constant. C'est Christian Constant, quel gars du Sud-Ouest. Moi, je monte à Paris avec mon accent qui était encore pire à l'époque. Personne ne me comprenait. Au Ritz, il m'appelait Gourou. Et Monsieur Constant m'amène avec lui parce qu'il y a l'esprit d'équipe, la convivialité, l'authenticité, et puis tu vois le côté artistique. Tu vois, c'est tout ce que je sais pas faire. Je suis en adoration. Donc je sais pas écrire, j'essaie d'écrire tout le temps. Je connais pas l'art, ça m'attire. Et donc ce côté artistique de la cuisine qu'il y avait au Ritz m'a énormément plu. Et donc je me suis mis là-dedans à 2000%. Et c'est devenu ma vie. Quoi. Mais qui a une forme logique quand j'entends Marine parler du restaurant. Nous c'était papa et maman, ils ont pas aucune culture de si vous m'entendez vous râler, mais aucune culture de rien sauf du restaurant. Et aller au restaurant c'était la fête. On s'habillait sur notre 41. Il y avait des moments d'émotion, d'intensité. Je pourrais raconter tous les restaurants qu'on a fait avec papa et maman. Parce qu'à un moment donné, il y avait une façon de se comporter, une façon de regarder, une façon de manger. Toi. On rentrait dans un monde qui était pour nous toi, le monde merveilleux. Mmh. Donc je pense que c'est normal que je sois arrivé où je suis arrivé. Quoi.
On saute quelques années, Yves. Aujourd'hui, en 2019, ça paraît assez normal, un chef qui a été formé sous les ordres des palaces dans les plus grandes brigades et qui décide de raccrocher un peu les gants, de faire plus simple, d'ouvrir un bistrot. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque, c'était assez dingue comme décision. Tu nous rafraîchis un peu la mémoire. Donc, t'es passé par le Ritz, la Tour d'Argent, le Crillon.
Ouais,
t'es très, très proche de Christian Constant, de toute la clique des chefs de la brigade de Constant.
Ouais,
tu quittes cet univers-là qui était, j'imagine, à la fois dur, compétitif, mais qui était aussi une forme de collectif. Alors, et de cocon un peu aussi.
C'était
pour...
dur, compétitif, violent, mais jamais physiquement.
Ouais.
On n'a pas connu la violence physique dans la brigade de M. Constant ou M. Le Guet, j'ai jamais vu ça. Par contre, moralement, on était sous pression. Et je pense que je suis l'électron libre du truc qui fait péter les plombs au mec. Dans le sens que c'est super compliqué les journées, mais le soir, je leur prenais, venez. Tu vois, le côté Sud-Ouest.
Et puis tu relativisais, quoi.
Voilà, on va canonner, ouais. on va boire des bières ensemble pour se décontracter. Et donc, j'arrive, tu vois, à créer tout le temps une ambiance super rigoureuse au boulot, mais quand même en gardant beaucoup d'humain entre nous. Et c'est pour ça, bon, tu vois, des gars comme Jean-François Piège, qui a été mon stagiaire, Emmanuel Renaud, quand on se voit, quand on se rencontre les yeux dans les yeux, tu vois, je vais pas dire qu'on pleure. Il y a vraiment une chaleur humaine de ce qu'on a vécu parce qu'on avait amené de l'humain dans ces systèmes qui étaient totalement inhumains.
Et en 92,
moi je m'ennuie.
Tu rachètes la régalade. Ouais,
parce que moi je me rends compte que je suis un acteur. Tu vois, dans ces maisons-là qui ont été des maisons merveilleuses, et c'est sans doute grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Mais je suis un acteur et une fois de plus, j'ai pas envie d'être un acteur. Tu vois, je pense que j'ai répété ma
tu
ma
veux
partition.
Être quoi ? Tu veux être le réalisateur, quoi ?
Ouais, non, j'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être moi. J'ai plus envie qu'on me donne un rôle. J'ai plus envie qu'on nous donne un rôle. Je me dis, écoute, tu vas partir avec tes qualités et tes défauts. Et moi, je reste persuadé que les défauts des gens, c'est nos qualités, c'est nos différences, et qu'il faut savoir les accepter. et même les cultiver de temps en temps, parce que ça fait du bien, un peu d'être différent. Et donc j'ai envie de ça. Je lui dis, écoute, je fais ce que je veux. J'en parle à M. Constant, il me dit, de toute façon, quand deux, je te connais, tu feras ce que tu as envie. Ouais. Et ce que tu as envie, tu le feras bien. Donc vas-y, fais-le.
Si tu as envie de t'enterrer au fin fond du 14e arrondissement, vas-y.
Ouais, mais j'ai pas d'argent. Ouais, mais t'as pas d'argent. Tu démarres, t'as pas d'argent, ouais. T'as rien. Tu dis comment tu vas faire. Alors tu commences à tourner dans Paris, tu vois, et puis tu essaies de trouver des lieux. Tu te rends compte que tout ce qu'on te propose, ça coûte de l'argent, t'as pas de sous. Et tu trouves un lieu complètement perdu.
Avenue Jean Moulin.
Voilà, et tu y crois. Mais après, c'est simple, il faut y croire dans la vie. Croire aux choses. Quand tu y crois, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
La régalade.
Ouais, la régalade.
Marine, tu te souviens de la première fois à la régalade? De ta première fois?
La première fois, peut-être pas, mais en tout cas, moi, j'y suis pas allée non plus 25 fois, mais en fait, ce qui était dingue, c'est que c'était très, 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 très convivial, quoi. C'était tout le monde se parlait, on arrivait, il y avait la terrine posée, le couteau planté.
C'était quand même un truc fou, ça,
c'était très, très généreux, ça, il y avait du bruit, c'était le bistrot, mais en revanche, dans l'assiette, c'était complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il sortait du crayon quand même, le gars. Donc, ça envoyait du lourd. C'était et je sais pas. Moi, ça m'a. C'était. Il y avait une espèce de communion. Tu sortais de cuisine, quoi. Il y avait un truc. C'était et j'ai halluciné de voir ce mec totalement libre, très joyeux. Tout le temps très très joyeux, un peu gueulard, mais tout le temps très 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 joyeux. Et voilà, et j'ai été fascinée. Et parce que c'était aussi super super bon et super élégant. C'est ça qui était fou, c'était qu'on était dans un bistrot et que dans l'assiette, c'était magnifique, bah c'était hyper sophistiqué, c'était très très beau. Quoi.
Et à l'époque, à Paris, des bistrots un peu électriques comme ça, il n'y en avait plus. Zéro. C'était guindé. Zéro. C'était
non, il n'y avait pas, ouais. Tu avais assez étonnamment. Et alors, moi, quand j'étais là, j'avais une culture restaurant, donc on n'avait pas d'argent, mais une fois par mois, je me payais un restaurant et je prenais 500 francs. Une fois par mois, je mettais 500 francs dans un restaurant et je voulais, toi, un apéro, une amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert, une bouteille de vin à deux et un digestif. On l'avait pas, quoi. Il fallait de suite rentrer dans le guindé et tu serrais les fesses. Le seul qui faisait un truc qui était un peu électrique, c'est Gilles et Pied. Le Miraville.
Ah oui.
Gilles et Pied et de Givenchy, la Timonerie. Les deux qui étaient à côté sur les quais. Qui étaient un peu des gars un peu partis. Tu vois.
C'est les seuls. Mais est-ce que l'ancêtre de ça, ça a quand même pas été le bistrot que Guérard avait ouvert à.
Moi, je l'ai pas connu, mais je me méfie toujours, toi, des souvenirs passés qui existent plus. Toi, c'est comme les morts. Toi, on en a perdu deux cette année. On va nous dire bientôt que c'est les meilleurs du monde, alors que c'est deux enfoirés. C'est pareil. À un moment donné, quand t'es mort, tout va mieux.
Le mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot de bistronomie.
Ouais, bistronomie.
C'est un mouvement que tu crées en fait, sans le vouloir, sans le nommer.
C'est pas un mouvement. C'est un journaliste, Sébastien de Morand, qui invente un mot. C'était au bureau du foodie.
Oui, c'est un courant de cuisine.
Pour parler de cette nouvelle manière de cuisiner.
Moi, je pense qu'il y a une vraie cassure. Et Marine le dit tout à l'heure. Moi, je suis devenu intime du jour au lendemain avec toutes les journalistes de presse féminine.
Ah oui,
c'est surréaliste. Mais parce que la vérité, c'est que Michelin, au placard, Pudowski, il m'a brûlé. Champérard m'a brûlé. Tous les guides gastronomiques nous ont brûlé. Parce que ce qu'on faisait, ils nous disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, mais ça n'existe pas, ça. Pourquoi tu fais si bien à manger, si peu cher? Mais c'est donner de la confiture au cochon. C'est la réalité, quoi. Et les chefs cuisiniers, pareil. Hein. C'est pareil. Tous ils m'ont dit, tu te marginalises, ça ne durera pas, patati patater. Et c'est la presse féminine, Jocelyne Rigaud, Martine Albertin, toi, les anciennes, quoi, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait des articles tithyrambiques. Ouais, et j'étais reconnu par les filles, c'était à mourir de rire. Moi, le côté tradi, un peu ringard, tu vois
pas. Non, t'étais tout ça. Oui, ringard, je me t'avais une parole libre. Oui. C'était tout.
Ce qui s'est passé réellement, c'est Fooding. C'est Fooding qui me ramène. C'est Fooding, quelque part, qui me redonne un peu des lettres de noblesse par rapport au cuisinier que je voulais être. Parce que moi, je me battais contre tout. Je dis, mais attendez, arrêtez, je suis cuisinier. Regardez ce qu'on fait dans l'assiette. Certes, on le sert en totale décontraction. Certes, la lumière est pas belle. Certes, les rideaux sont pas beaux. Voilà, mais c'était comme ça, quoi. Moi, l'important pour moi, j'étais cuisinier. C'était le respect de la matière première et mettre de l'émotion dans l'assiette. Et c'est Fooding qui m'accompagne. Hein.
Ah. Mais c'est deux générations qui se rencontrent, en fait, quoi. En tout cas, deux métiers qui se rencontrent. À l'époque, Alexandre Camas, Emmanuel Rubin, Fooding, et ils se retrouvent pas vraiment dans le paysage gastronomique de l'époque, et le seul endroit où ils se disent, c'est moderne, c'est nous, c'est ça, c'est la cuisine de Yves, et...
Parce qu'on s'ennuyait quand même un peu à table à l'époque, hein, à Paris.
On avait fait des musées, quoi. Le problème, c'est que, le problème, je pense que les cuisiniers, et même encore aujourd'hui, il faut faire hyper attention, ils ont oublié une chose, quoi. C'est que c'est toujours nous, les cuisiniers, qui mériterons nos clients, c'est pas nos clients qui nous méritent. Et à un moment donné, les gars, c'était les clients qui méritaient d'aller au restaurant, merci monsieur de me recevoir, comment on doit manger. Attends, t'arrives au restaurant, on te disait, vous allez commencer par manger là, et après là, Tu vois, on t'a posé des codes, on t'a tenu vestimentaire, de façon de se comporter, la façon de manger.
Ça devient aujourd'hui, aujourd'hui ça revient aussi
assez fort aujourd'hui. Hein.
Les menus imposés, les réserves.
C'est le danger.
Franchement, ça revient.
Moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est qu'on m'explique comment je dois boire mon café. Voilà. Ça, c'est pas
vrai. Sans sucre.
Ah oui. Interdiction. Si tu prends du sucre, t'es une grosse plouque.
On est en train de
repartir. Surtout, c'est tellement acide.
Tu vois, l'histoire est en train de se répéter. Moi, je leur dis, on a cassé les codes.
Ouais. Et là, on repart dans un truc.
Mais même dans la déco. Il y a des endroits, même moi qui vais rentrer, je suis à l'aise partout, mais il y a des endroits, je me dis, tu vois, c'est bizarre parce qu'il y a des codes que je ne comprends pas.
Oui.
Tu vois, c'est délicat. Quoi. Le restaurant, ça doit rester quand même un lieu, quel que soit le niveau, ça peut être le plat du jour comme le 3 étoiles Michelin, un lieu où tu dois être accueilli, où il doit y avoir de la chaleur humaine, où il doit y avoir de la convivialité, où tu dois te sentir bien.
Puis c'est aussi un retour de la liberté du mangeur, ça, hein, de faire confiance au goût du client et de le laisser choisir. Ce qu'il a envie en fonction de ses désirs, qu'il a sans doute.
Et Yves a été un des premiers à faire des menus imposés, mais c'était pas pareil.
C'était pas des menus imposés.
Bah, c'était.
Non, mais c'était pas. On avait 10 entrées, 10 plats, 10 desserts.
Non, après, au relais.
Au relais, ouais.
Au relais ça a été un des premiers.
Ouais.
Mais sauf que t'arrivais avec tellement de propositions.
Ouais, mais après, pour être honnête, Marine, je pense qu'on est au bout de l'histoire.
Oui.
Tu vois, même
à l'époque.
T'es au bout du menu unique,
ouais, à l'époque. À l'époque,
moi, j'en ai marre du menu au restaurant, comme l'impôt, ça me fait chier.
On en a tous marre.
Mais à l'époque,
c'était le premier.
Et ce qui est vachement important, tu vois, par rapport aussi à la bistronomie, il y a un truc, on oublie de le dire, c'est très technique, mais c'est qu'on on a donné les lettres de noblesse à tous les bas morceaux. Mm. Tu vois. Parce qu'avant, un maquereau, tu n'aurais jamais vu un maquereau dans un restaurant gastronomique, ni une sardine. Et c'est vrai qu'à la régalade, étant donné que j'ai employé les mêmes méthodes de recette pour travailler un turbo qu'on a travaillé le maquereau. Et donc, on leur a donné les lettres de noblesse, un pied de cochon aujourd'hui. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant gastronomique, ils vont oser faire des pieds de cochon. Alors qu'avant, toutes les cartes étaient tombées en stéréotopie. Toi, on a quand même, toi, relevé tous ces produits. Ça n'existe plus, les produits nobles et les bas morceaux.
T'as encanaillé la cuisine bourgeoise, quoi.
Voilà, totalement.
Yves, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans le fooding?
Bah, la liberté, quand j'ai vu Alex arriver, il y avait ses douilles comme ça, et Jean-Marie Viseau, que moi je connaissais pas. J'ai dit, qu'ici c'est deux allumés, quoi. Et quand on commençait à me passer de gastronomie, putain, j'ai dit, mais attends, c'est, toi, Champérard, je sais pas ce qu'on est Champérard, malheureusement, il est parti, celui-là aussi, au Boutin Gourmand, Jean Didier, c'était quand même des costards cravates, tu vois, c'était des corbeaux, hein.
Ouais, ça se prenait au sérieux.
Tu vois les deux arriver. C'était pas très réglo, quoi, c'est pas des mecs qui étaient en addition non plus.
Tu dis, qui c'est, et il te parle de manger, il te parle de plaisir, et tu te rends compte qu'il parle comme toi. Ils ont un langage qui est proche du langage que moi j'emploie au quotidien ou que j'essaie de mettre en place. Donc je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui va enfin comprendre ce qu'on fait. Quoi.
Ouais, mais tu te retrouvais en fait aussi dans le fait que le fooding avait envie de casser le moule, comme toi, à ta façon.
Ouais, casser le moule. Je veux dire, casser le moule, je suis pas d'accord parce que moi j'ai rien cassé. J'ai fait ce que je pensais bien parce que j'avais l'âge de le faire. Mmh. Je l'ai fait naturellement.
C'était très sincère, et je pense que Alex et Emmanuel, c'est pas écrit.
C'est que t'as envie de le faire. Tu le fais, tu sais pas pourquoi tu le fais. Mmh. Tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Tu le fais parce que à ce moment-là, tu sens que tu dois le faire et que ça va te faire du bien. C'est de l'égoïsme.
Ouais.
Être égoïste dans ces moments-là, c'est super important. C'est se faire du bien avant tout. Et je pense que si tu fais du bien à toi et que ça te rend heureux, tu vas rendre les gens heureux.
Je suis d'accord. T'as pas eu envie de casser le moule, mais je pense que Alexandre Camas et Emmanuel Rubin, avec le fooding, il y avait une envie quand même de...
Ah oui, ils voulaient foutre un gros coup de pied.
Ah ouais, voilà. Ils voulaient mettre le feu quand même.
Ouais. Mais parce qu'ils étaient eux, ils voulaient être eux-mêmes. Et pour casser un peu tous les codes des copinages et des machins.
On payait les additions au fooding.
Ouais, enfin,
fooding, toujours. Il n'y a pas grand monde, qui faisait ça. Toujours.
Non, bah, Michelin,
c'était fooding. Révolutionnaire à l'époque de dire, il est hors de question que je me laisse inviter, quoi.
Bien sûr.
C'était quand même...
De toute façon, on le dira. Aucun ne paye les additions.
Non, aucun fait ça.
Aucun ne paye l'addition, à part Michelin.
Et le fooding.
Et François-Régis Godery.
Non, mais de
Figaro.
Ouais,
voilà.
Quand même,
Là, c'est la génération moderne.
Oui. Ah, tu parles des anciens.
Là, tous les anciens, il n'y en a pas un qui payait. Pudowski, Jean Didier, Gros Inigo et compagnie. Aucun.
François Simon.
Il n'y a que le Michelin. Il faut le reconnaître ça.
François Simon, il paye ses additions.
Non, mais François Simon aussi, mais ça fait partie aussi, je pense. Ça fait partie, François Simon, des gens qui nous ont énormément apporté.
Marine, je crois que tu as un petit morceau de musique à nous faire écouter. Tu nous raconteras après ce que ça t'évoque.
Ouais.
C'est quoi ?
C'est DJ Mehdi, Lucky Boy. Marine, tu nous racontes Lucky Boy de DJ Mehdi, qu'est-ce que ça
t'a C'est la première fois où j'ai parlé à Yves. C'était mon premier événement organisé au Fooding, à la Favela Chic.
Il y a combien de temps?
C'était en 2004, début 2004, je dirais mars 2004. On faisait un truc qui s'appelait Wine & Fooding Tour, donc c'était un vin, un chef, un lieu, un DJ. Là, on avait la chance d'avoir DJ Mehdi qui était là,
ouais,
et Christian Constant qui faisait à manger. Et en bon copain qu'il est de Christian Constant, Yves débarque. Et alors moi, c'est comme si je voyais, je sais pas, Werner Schreier.
Oui, Mick Jagger. Werner Schreier, personne ne sait qui c'est, Marie.
Pardon. Bref, voilà.
Avoir notre âge.
Je sais pas, voilà, j'étais complètement en transe et je le vois comme ça et je vais le voir et je dis bonjour. Et voilà. Et par ailleurs, j'adorais DJ Mehdi. Ouais. Voilà.
On vous a préparé un petit questionnaire. Vous allez devoir répondre à des questions l'un sur l'autre.
On a essayé de sortir des dossiers, mais c'était pas évident. Hein. Ouais, on est un peu irréprochable l'un à l'autre.
Marine, pour lequel de ces aliments y va-t-il une réelle aversion? Le miel ou la patate douce?
Je vois pas comment tu pourrais savoir.
attends, je vais... Les plats, tu le cuisines ou pas? Est-ce que t'as une aversion, mais est-ce que tu le cuisines quand même?
Non, je le cuisine pas.
Alors le miel?
Non, la patate douce.
J'ai cru que j'avais mangé des chips de patate.
C'est un truc que j'aime pas.
C'est pas les deux, t'aimes bien le miel?
Non, le miel.
Oui, parce que j'avais plutôt
la vérité. Non, mais la vérité, la patate douce, c'est toujours non. Le miel, je me suis mis avec un apiculteur, Pierre Carly.
Oui, c'est ça. Oui.
Pierre m'a fait goûter du miel il y a maintenant quelques années.
Il est en Corse.
Oui, il est en Corse, patrimonial. Et c'est un. Bon, déjà, le gars, il est exceptionnel. Et le miel est très très bon. Et c'est un miel qui est très puissant. Donc c'est pour ça que je l'aime.
La patate douce, c'est niette?
Non, niette.
C'est douce, ça, la patate douce. La patate douce à 30
ans. Non, mais parce que déjà, moi, je ne suis pas sucré salé. J'adore le sucre, oui, mais je ne suis pas sucré salé. Et la patate douce, je trouve ça has-been, je trouve ça mou. Tu vois, ça,
d'accord.
Je trouve ça plomb.
Ok.
Bon, Yves, Marine cuisine très bien. Il y a un dessert des familles qu'elle maîtrise à la perfection. Peut-être que c'est les deux, en fait. Est-ce le riz au lait ou la crème caramel?
Riz au lait ou crème caramel, moi je vais dire riz au lait parce que je pense qu'elle en a mangé beaucoup, donc elle doit savoir le faire.
Bah justement, non, elle le fait pas à la maison, elle le mange chez toi, chez Stéphane Diego à la Mijan, elle est pas folle. Non, c'est la reine de la crème caramel. Ouais, je sais pas. Elle fait très très très. Elle fait la meilleure crème caramel que j'ai jamais mangée.
Ah bon?
Si, c'est vrai.
Bon, merci.
Marine, bon, on sort de la bouffe.
Mmh. T'es sûre de toi?
Écoute, c'est pas vrai ou faux? Yves est un dingue d'Ayurveda.
D'ailleurs, Veda, de cuisine ayurvédique. Les deux.
Méfie-toi, ça.
Ouais, méfiez-vous, hein, parce que.
Bah, il
pourrait vous surprendre.
T'es allé en Inde?
Ouais, je suis allé en Inde. J'ai fait une cure de 3 semaines d'ayurveda.
Ouais.
Et je trouve ça super intéressant. Et je pense que même ma cuisine aujourd'hui s'en ressent. Hein, de pas l'aubergine, qui est pratiquement un plat aujourd'hui pour moi.
Donc la réponse, c'est quoi? T'es dans l'Ayurveda ou pas?
Oui, parce que j'ai rencardé, j'ai demandé des dossiers à Julien Dubouet.
Ah ben ouais.
Il n'y a que ça à te dire.
Non, mais il y a des choses que je ne pouvais pas dire à l'antenne.
Alors, balance un dossier.
Non, je pense que c'est quelque chose de très très intéressant parce que ça m'a fait découvrir aussi que la cuisine, que la protéine n'était pas une obligation. Une obligation pour bien se nourrir, pour être bien équilibré.
Non, mais justement, on va en parler après de tout ça. Mais...
Bon, quand le frigo de Marine fait la tronche, ce qui n'est pas très fréquent, ça je vous le gâche pas, qu'est-ce qu'elle prépare par défaut? Une omelette au jambon ou des pâtes ail piment?
Omelette au jambon, pâtes ail piment, omelette au jambon. Je vais dire pâte à piment.
Ouais.
C'est ça ou pas? Je me suis pas trompée.
C'est
trop facile,
elle me connaît par cœur.
Non, mais parce que le frigo par défaut, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Omelette de jambon, il faut déjà avoir des œufs de jambon. J'ai fait une déduction comme ça.
Exactement.
Est-ce qu'il reste des révolutions à accomplir dans la cuisine aujourd'hui, dans la bouffe?
Oui, bien sûr. Il y a la révolution que la génération actuelle est en train de faire et celle que la génération d'après fera. Chaque génération fait sa révolution.
Est-ce qu'il vous semble qu'il reste encore aujourd'hui des révolutions à accomplir dans la bouffe? Elle passerait par quoi? Est-ce qu'il y a des codes à casser, des frontières à repousser?
Oui, heureusement. Il y en a plein, il y en a toujours. Quoi. C'est infini aujourd'hui. Yves parlait des protéines, des protéines animales, d'éco-responsabilité, mais dans tous les domaines. J'imagine évidemment que c'est au quotidien dans ta manière de travailler, Yves.
Oui, je pense qu'il faut.
Et c'est ça, une vraie révolution, surtout pour un mec comme Yves.
Le pire de tout, c'est de dire avant c'est mieux, avant ceci. Non, ce qu'il faut réfléchir, c'est demain. Et demain, ça passera par les jeunes, quoi. Quelles que soient les générations, c'est la génération d'après qui, quelque part, enclenche un nouveau mouvement. Parce qu'il y a une demande qui est différente, il y a un environnement qui est différent, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc je pense que la cuisine, ça perpétue l'évolution et peut-être revenir sur du super classique dans une génération.
Moi, je pense que c'est comme une...
Voilà, avec les améliorations que tu y amènes. Et surtout, ce qui est important, c'est vivre avec son temps. Faut pas vivre avec le passé, ni trop avec le futur. Vivre avec son temps, c'est déjà primordial. Et quand on vit avec son temps, c'est qu'on est toujours en avance.
Ouais. D'ailleurs, moi, je trouve, Yves, avec l'avant-comptoir, c'était ça, pour moi, la révolution, parce que c'est peu de sièges, voire pas. Donc, on mange debout. Les intitulés de plats comme ça qui pendent au plafond, on crie ton nom. C'était un peu osé dans le pays où le repas est sacré, et surtout à Saint-Germain.
Mais l'avant-comptoir, tu as raison, c'est pour moi, c'était une réflexion de me dire, ta clientèle du comptoir à ton âge, et malheureusement, on commence à être un peu âgé, comment tu vas ramener la jeunesse? Ça, je n'aurais pas ramené la jeunesse avec ma cuisine de base. Donc j'ai dit, McDonald's, je vais faire McDo. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? Ils veulent manger rapidement, ils ne veulent pas de code, ils veulent être totalement libres. Et l'avant-comptoir, c'est que ça. Et je vais amener, par contre, ma cuisine. Je vais leur faire voir que de bien manger, de travailler un produit, de le personnaliser, c'est aussi intéressant. Mmh. Et leur dire, arrêtez de boire les merdes que vous buvez. Vous allez voir propre et bon.
Mmh, on boit très bien, d'ailleurs.
Et les gens viennent, ils peuvent prendre un dessert en premier, un fromage en deuxième. Ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Il y a une totale liberté. Je fume, je téléphone, je sors, je rentre, je ne dérange personne. Sauf que quelque part, avec beaucoup de rétention, je pense que c'est un début d'éducation du goût. Là, c'est des jeunes qui se mettent à bien manger, qui se mettent à bien boire, et que dans les années, comme tout le monde, petit à petit, ils seront contents aussi de se retrouver autour d'une table. C'est une modernité, entre guillemets.
C'est festif, parce que vraiment, il y a un truc chez Yves dans toutes ses adresses, même le comptoir qui peut être un peu guindé, mais en fin de service, c'est toujours ultra sympa. Il y a un côté... On se sent jamais acculé par quelque chose.
Je pense que c'est Marine, c'est la vie aussi. Quoi. On travaille tous, on a tous un peu de pression.
Oui,
dans
mais on est au coude à coude, mais nappé. On a froid, mais on a des plaides. T'as réinventé quoi. Il y a un truc très très sexy dans tous les endroits.
Mais vous êtes vraiment l'un et l'autre assez obsédés par ça, parce qu'il se joue dans une salle. Tu parlais depuis l'enfance du restaurant comme un lieu incroyable où il va se jouer un truc. On sait pas ce qui va s'y passer, mais il va se passer quelque chose, et ça va bien au-delà. Ce qui se passe dans l'assiette. Évidemment qu'on va au restaurant pour manger quelque chose de bon, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui vous a récemment, dans vos expériences de voyage ou ici, en France, n'importe où, est-ce qu'il y a eu des expériences de restaurant qui vous ont un peu bouleversé ou qui vous ont étonné? Je crois que Marine, tu as vécu...
L'année dernière, je suis allée chez René Redzepi à Noma.
Et Copenhague.
Tout le monde le connaît, meilleur restaurant du monde pendant très longtemps, etc. Mais il y a un truc qui m'a bouleversée. Alors, c'est très étudié et tout ça, mais vraiment, ça m'a... c'est dommage, je vais le raconter pour ceux qui vont y aller, mais
ça donnera encore plus envie.
C'est
spoiler.
On vient nous chercher à l'accueil qui est assez loin sur la route et un hôte vous amène et là vous marchez sur un ponton et vous voyez toutes ces verrières où on travaille des gens. Comme une espèce de laboratoire d'université avec plein de gens qui grouillent partout, c'est magnifique au bord de l'eau. Et là, on vous ouvre la porte et là vous avez 40 personnes qui disent bonjour en même temps et face à vous. Et là, ça, c'est comme si on se prenait un pain dans la figure, un pain de joie et on est complètement sous le choc. Et là, direct, on nous amène et c'est comme si on a plus d'équilibre, on nous a enlevé notre... C'est 40 personnes qui crie très fort bonjour comme ça, je sais pas exactement, mais c'est j'en ai la chair
c'est
de
super
poule. C'était
puissant,
incroyable, parce que bon, après l'expérience est folle, mais ce truc là de dire bienvenue chez nous, on est 40 personnes et cette union là, j'ai vraiment, c'était assez incroyable, quoi.
C'est une communion, quoi, un peu.
C'était, et après on est à table, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est comme si
il enlevait toute protection. Ça nous fragilise, en fait. C'est un peu agressif, en fait. Et on s'assied et on n'a plus de protection. Et donc, on est plongé dans une expérience un peu étrange après. Voilà. Mais c'est très particulier. Je ne pourrais pas le faire tout le temps. Hein.
Ça m'avait frappé, ce récit que, ouais, tu m'en avais fait. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, en fait, l'avenir du restaurant, il va aussi passer par ça. Parce qu'effectivement, la cuisine est cyclique. On va peut-être revenir à une cuisine plus de sauce. Oui, bah,
après,
plus
c'est un restaurant. Chose.
Oui, oui, mais.
Tu vas pas souvent.
Je veux dire, penser la salle, penser le service, penser l'accueil. C'est des choses, franchement. Peu de monde a vraiment pensé à ça depuis 15 ans, quoi.
C'est... En fait, je pense que le parti pris, c'est de se dire qu'il faut que ça soit totalement expérientiel.
C'est ça.
Et pour que ça le soit, il faut que... et en plus, c'est un endroit où tu peux pas aller tout le temps, hein, parce qu'il te faut un an pour avoir une table. Donc, il faut que le voyage, que ça aille de détour.
Est-ce qu'on peut encore appeler ça un restaurant? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'on peut appeler ça un restaurant? Et moi, j'ai toujours peur, parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on n'en prend une fois de plus en train de... C'est du spectacle. Alors, c'est du spectacle gastronomique avec une assiette exceptionnelle. Je reviens pas sur la qualité de l'assiette, jamais. Mais par rapport à tout ce conditionnement qui est mis en place, est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve pas une fois de plus, toi, on va au spectacle.
Trop spectateur.
Trop spectateur. Putain, moi, je restaure, j'ai envie de...
Ouais, mais c'est bien. C'est autre chose.
C'est bien.
Si, il y a une place pour tout.
C'est pour ça que je
voulais dire. C'est un autre restaurant, une autre forme de restaurant. Et c'est hyper intéressant aussi, parce que ça renvoie à quelque chose.
C'est comme les restaurants, par exemple, de jazz. Tu vois, aller manger, écouter de la musique, pour moi, c'est impossible. C'est impossible.
Parce que la musique prend trop de place. Elle empiète trop.
Justement, est-ce que tout ça prend pas trop de place par rapport à l'émotion, tu vois, au partage que la table doit amener, les amis avec qui tu es? Je pense que c'est une autre formule de restaurant. Peut-être qu'aussi, c'est une branche de restauration qui est importante, parce qu'elle va amener de l'évolution, elle va amener aussi un côté spectaculaire qui peut être très intéressant. Il ne faut pas que la restauration devienne ça.
Non, je pense que... Non, mais si c'est une autre proposition, c'est de temps en temps... Quoi, tu ne vas pas bouffer chez... Tu vas pas dîner chez Noma tous les jours. Hein. Mais je trouve que dans l'expérience, ça te met mal à l'aise, quoi. Pas mal à l'aise, oui, ça te...
Non, mais tu le dis naturellement,
c'est ça. Il y a une vraie disruption, même si le mot est un peu énervant.
C'est de ce que tu prétends, toi, faire, Yves. C'est-à-dire, toi, t'as envie qu'on arrive chez toi, que tout soit immédiatement lisible, jovial, gay.
Mais c'est sûr que tous les jours, on peut aller... À l'époque, on pouvait aller tous les midis à la régalade, tu vas pas tous les midis... Non, mais c'est autre chose.
C'est autre chose. C'est une nouvelle formule de restauration.
C'est la possibilité de ça qui est...
Ça coûte très cher, et enfin, tu mets un an à avoir une offre autre chose.
Yves, toi, tu te définis comme t'es restaurateur, c'est le prolongement du métier d'aubergiste, c'est quoi restaurateur
exactement? Non, je suis aubergiste.
T'es aubergiste?
Ouais,
je suis aubergiste.
Ah ouais, bien. Oui, aubergiste, parce que...
Mais moi,
Sébastien Debrouen, quand il me fait bistronomie, il a failli prendre une tarte. Parce que pourquoi me ramasser? Dis-moi que je suis un aubergiste.
Ah, tu l'avais mal pris à l'époque?
Je l'ai mal pris, je suis vexé à l'envoyer balader. Non, mais parce que vous êtes trop jeune, vos bistrots, c'est quoi? C'est le canon en barre avec le coup de saucisson. Ouais. Une fois de plus, vous allez me classifier parce qu'il n'y a pas la déco, parce qu'il n'y a pas le service.
Ah, tu trouvais ça un peu dépréciatif, dire, quoi, un peu.
Alors que c'est cool.
J'ai trouvé ça, moi, dégradant. Oui, je me suis dit, mais attendez, vous arrêtez, je suis cuisinier.
Et les gars, je viens quand même du crayon, quand même. un peu de respect, quoi.
Non, regardez ce qu'on fait, on fait de la cuisine, quoi. Bistrot, c'est quoi? C'est le saucisson. Après, c'est rentré dans les mœurs maintenant. Ouais. Mais tu vois,
t'as contribué à revaloriser ce terme, en fait.
Pardon?
T'as contribué à revaloriser ce terme.
C'est pas moi qui ai poussé le terme.
Non, le terme non, mais le fait qu'il soit revalorisé.
Complètement. Mais moi, j'aurais préféré qu'on dise aubergiste. C'était plus dans ma philosophie. C'est de prendre les clients, les prendre dans les bras. Les serrer, leur dire bonjour et leur dire asseyez-vous, on va vous faire plaisir. Stop.
Yves, bon, c'est bien parce que l'avant-comptoir, tout ça à Saint-Germain. Mais personnellement, moi, je suis du côté de... Je suis dans le Nord. Et l'avant-comptoir Pigalle ou l'avant-comptoir Barbès.
Dans le Nord, elle n'est pas lilloise.
Dans le Nord de Paris. Elle s'en rend un destin, voilà. Tu sais.
Et pourquoi pas un avant-comptoir Barbès, un avant-comptoir Pigalle?
Je vais pas dire ni oui ni non, parce que tout ce que j'ai dit que je ferais pas, je l'ai fait. Et tout ce que j'ai dit que je ferais, je l'ai pas fait.
Yves, un avant-comptoir par commune de France. Tu relèves le défi, on appelle Macron.
Justement.
Tu ouvres
à Bordeaux?
Alors, c'est pas moi qui ouvre, là, faut
remettre. C'est ton neveu?
Voilà, c'est déjà que c'est Julien, mon neveu qui a travaillé 12 ans avec moi, toi qui a travaillé avec Eric Fréchon, qui a travaillé Robochon, toi qui a fait une belle carrière professionnelle, qui s'est marié avec une Bordelaise, qui veut s'installer à Bordeaux, donc je l'accompagne, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est Julien, et il a 30 ans, c'est un très grand garçon, et en plus, c'est un gars merveilleux, très sérieux, donc ça sera l'avant-comptoir du palais à Bordeaux, mais ce n'est pas moi personnellement qui serai dedans.
Avec les mêmes codes?
avait les mêmes codes, parce qu'il veut faire les mêmes codes. C'est lui qui a choisi, c'est pas moi qui lui ai imposé, c'est lui qui me l'a demandé. Voilà, parce que pareil, il est dans sa génération, il a l'âge de... Il est né avec les avant-comptoirs, et il se retrouve dans les avant-comptoirs. Donc je pense que la vie, c'est comme ça, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie.
Bon, Yves, toi, t'es moins électro, t'es moins DJ Mehdi, t'es plutôt quoi ? T'es plutôt variété française ?
Ouais, je suis plutôt parolier français, et souvent avec...
Non, mais moi, on m'a demandé de choisir un truc en fonction d'Yves. Ouais. Donc c'était pour raconter un truc.
Mais t'as pas une idée, t'as pas le moindre soupçon qu'il puisse avoir un lien entre le morceau qu'il a choisi et toi. Ça se trouve, c'est une déclaration d'amour.
On voudrait lui faire ça. Je pense que la rencontre avec Marine, c'est très particulier, parce qu'on n'en a pas parlé. Marine, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai qu'elle était jeune, je sais pas pourquoi, je l'ai presque considérée comme une sœur.
C'est vrai.
C'est très particulier. Et alors, pour mon ami aujourd'hui a vu Marine une fois, et elle m'a dit, je t'ai rarement vu avec un tel comportement avec une fille.
C'est vrai que vous avez une relation particulière. Ah,
particulier. Donc on va pas rentrer là-dedans. Non, mais moi, dans mon côté très jovial, j'ai toujours une forme de petite nostalgie. J'aime les chansons nostalgiques, j'aime les chanteurs un peu nostalgiques.
Et là, en l'occurrence, t'as choisi qui ?
J'ai choisi Alain Bachung. Voilà.
La nuit, je mens.
La nuit, je mens.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Bellière, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Bon, ça, on vient d'accueillir Ricardo Ferrant, qui tient le stand Solina. C'est l'un de nos préférés avec Elvira, ici, à Grande Contrôle. Ricardo, avec ton associé Fabio, vous avez quitté votre Italie natale pour Parigi. Oui. Vous avez recréé un petit laboratoire de pâtes fraîches, comme il y en a beaucoup chez vous, en fait.
Oui, c'est ça. Dans les Abruzzes, c'est la région où moi et Fabio on vient d'origine. Dans les petits villes, villages, on a pas mal de petits laboratoires pour la fabrication de la pâte. Mmh. Mais aussi, c'est une tradition qu'on retrouve beaucoup dans les familles, qui évidemment aujourd'hui c'est un peu plus perdu. C'est pour ça que un peu la maman qui veut faire ouvrir, faire un peu comme être entrepreneur. Ils ont ouvert pas mal de petits laboratoires. Et du coup, la façon, c'est vraiment artisanal.
Voilà. Et c'est ce que tu fais ici. Oui. Avec quelle farine?
Et ici, oui, on a cherché de reproduire un peu la même philosophie et aussi sur l'utilisation des farines anciennes. Mm-hmm. Comme la Solina, c'est pour ça
que la Solina, c'est le nom d'une farine.
La Solina, oui, c'est un nom de blé, c'est un blé qui vient d'un parc régional qui s'appelle Gran Sasso, qui est à l'intérieur de la région des
Abruzzes.
Et en fait, le nom vient de Solina, ça veut dire la seule blé qui pousse à 1400-1500 mètres.
D'accord.
Et du coup c'est un bleu très résistant, et du coup il s'est cultivé qu'en bio parce qu'il a jamais été un peu attaché dans les maladies, donc c'est un bleu qui était toujours cultivé sans chimie.
D'accord. On se rend pas compte à quel point c'est important, hein, la révolution du blé, se réapproprier des blés de population, oui, des blés paysans, et refuser effectivement des blés, des champs de blé gavés de pesticides et de semences qui appartiennent à des gros labos américains. C'est un vrai acte un peu militant, quoi, en dehors du fait que les pâtes sont juste délicieuses. Peut-être tu peux nous dire d'ailleurs ce que tu nous as apporté, ce qu'on mange. Moi, j'ai des gnocchetti, trop beaux.
Ici, chez nous, chez Soline, on fait 4 formats différents de pâtes. Et c'est ici, j'ai amené les casserecce et gnocchetti sardi.
Casserecce à la puttanesca.
Oui, casserecce à la puttanesca. Donc, c'est un casserecce à base sauce tomate qu'on fait avec un peu d'ail râpé, de basilic. Et du coup, on fait cuire pour 2-3 heures, ça dépend de la quantité qu'on fait chaque jour.
Et
à la fin, on mélange avec un pistou qui rappelle un peu la puttanesca, que c'est des capres, olives, anchois.
C'est ça. Il faut que tu goûtes ça, Elvira.
Ah ouais, j'ai goûté.
Et le deuxième, c'est...
Yves et moi, on a les gnocchetti. T'as aimé? Hyper bon. Avec menthe.
Et les gnocchetti, on change beaucoup en fonction des... un peu sur les produits des saisons. Et aujourd'hui, on a commencé avec les courgettes qu'on achète ici à Paris dans les Zangam, mais que c'est
un épicerie dans le 11e.
Oui, qui travaille avec des bons produits, des légumes bio. Et du coup, on a commencé à faire des courgettes qu'on fait revenir vite fait à la poêle avec de la zeste citron, de la menthe, poivre.
C'est génial. C'est ça,
et à côté, on a poêlé aussi les champignons de Paris qu'on fait avec de persil. Et c'est après, on mélange tout avec un peu de pécorine.
C'est vif, c'est bon, c'est simple. Comme quoi aussi. Tu veux goûter?
Oui, j'aime bien.
Gnocchetti.
Gnocchetti.
Tiens, okay. Je te passe ça.
Merci Ricardo.
Mais merci à vous.
Et bravo, on se régale.
Franchement, c'est délicieux.
Merci beaucoup.
Finalement, c'est des produits simples. Yves, ça se rapproche un peu d'une émission sur laquelle tu as bossé récemment.
À table.
J'ai envie de te dire, il faut arrêter de dire que c'est des produits simples, c'est des bons produits. Toi.
Oui,
voilà,
c'est vrai.
Toi, c'est des produits de qualité.
Non, j'ai des produits qui ne coûtent pas très cher aussi.
C'est ça. Voilà, nous parles justement de cette émission, tu reprends du service dans À Table, une émission diffusée en prime time sur France 2, dans laquelle... Tu éduques des foyers au bien manger, on peut dire ça comme ça?
Oui, on peut dire ça comme ça, c'est avec Faustine Bollard. Donc c'est des familles qui font la demande, qui se rendent compte qu'aujourd'hui ils ont un total déséquilibre par rapport à ce qu'ils mangent. Donc on intervient dans leur choix d'achat de matières premières, on leur dit tout simplement, en fin de compte, c'est arrêter d'acheter des produits préparés, et ça, il faut le dire haut et fort, c'est dangereux, c'est toxique. Aujourd'hui, pratiquement 90% des produits préparés, on pourrait marquer « mangez-tu », comme on marque sur un paquet de cigarettes « fumez-tu ». On pourrait le faire. C'est toxique. Et leur dire que la cuisine, c'est simple. De prendre une pâte, de poêler une courgette avec deux champignons de Paris, d'y mettre une pâte dedans, ça peut être très simple. À la maison, l'esthétique, on n'en parle pas, on parle juste du goût et de la simplicité. Donc c'est manger mieux, manger plus sain, et pour finir, c'est moins cher. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que tous ces produits qu'on nous vend préparés coûtent une fortune quand on les ramène au kilo.
Ok.
Tout simplement ça. Voilà, c'est prêcher la bonne parole. Et on fait ça sur France 2 et Faustine Bollard. Ça me fait rigoler parce qu'en plus, je rencontre Faustine et elle est marrante.
C'est un vrai enjeu de sens.
C'est un vrai sens, oui.
Ouais. Pour finir, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre métier, dans vos métiers respectifs ?
Moi, je dirais les rencontres. Parce que si aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais Yves, il nous a beaucoup aidé le fooding. Au début, c'est personne voulait travailler avec nous. Et en fait,
c'était un des premiers
à nous faire confiance, ouais. À passer un coup de fil au grand chef, à ses potes grand chef, en disant il faut que tu fasses le fooding, alors qu'il nous prenait pas au téléphone.
À t'aider à trouver du matos quand tu te faisais la.
Je suis dans la merde et je dois trouver à l'autre bout du monde quand on est allé à New York, c'était la première fois qu'on est allé à l'étranger. Enfin, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est des rencontres. Et une des plus belles de ma carrière, c'est Yves.
Et toi, Yves, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ton métier ?
Faire pleurer.
T'es sûr qu'elle y arriverait ? Bravo.
Ah non, moi, j'ai envie de te dire, voilà, les gens, de toute façon, les gens font partie de moi. Donc, non, moi, j'ai juste. De garder le plaisir. Je sais que si j'ai le plaisir, j'ai la vie, quoi, tu vois. Et si j'ai la vie, j'ai les yeux grands ouverts de regarder ce qui se passe.
Et voilà.
Ouais, on en revient à toi. Merci la vie.
Merci la vie.
On va finir là-dessus. L'émission touche déjà à sa fin. Merci à tous les deux d'être venus casser la croûte avec nous. Vous nous avez vraiment régalé. C'est un bonheur de vous avoir. Merci à vous.
Merci à Aitor. Merci également à Ricardo Ferrante de Solina et ses fabuleuses pastas. Merci à Mathilde Giraud et Denis Legat de Grande Contrôle. Et Pierre-Alexandre Perrin derrière la console.
Viens boire un coup.
Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud, iTunes Podcast et sur le site grandecontrôleparis.com.
Chaud !
Chaud !
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.